Votre podcast Swing vous est présenté par Strixon et ses balles Z-Star, Z-Star XV et Z-Star Diamond. Victorieuse sur tous les circuits, elle performe comme vous l'exigez. Brooks Koepka, Hideki Matsuyama ou encore Shane Lowry les utilisent. Alors pourquoi pas vous? Les balles Z-Star de Strixon sont disponibles dans plus de 600 points de vente en France.
Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 sur Free et 193 sur la B-Box. Émission exceptionnelle, évidemment, on vient de l'apprendre. Victor Dubuisson a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Et pour en parler avec moi, Arnaud Thius de Journal du Golf. Salut Arnaud.
Salut JP.
Et Eric Doinel de la PGA France. Salut Eric.
Bonjour JP, bonjour à tous.
Président de PGA
France. Président, pardon. Excusez-moi, président. Messieurs, première réaction, forcément, c'était peut-être un peu annonciateur, mais on est quand même un peu tous tombés de notre chaise quand on a appris la nouvelle que Victor Dubuisson, tout simplement, arrêté sa carrière professionnelle.
Tombé de notre chaise, moi, je n'irai pas jusque-là. Il avait quand même, il avait sa carte du European Tour, du DP World Tour, comme on dit. Et il a quasiment pas joué de l'année, donc fallait s'en douter.
Il n'est pas allé au PQ3 aussi.
Il n'est pas allé
à la finale.
Ouais. En même temps, vous n'allez pas au PQ3 quand vous n'avez pas joué de l'année. Enfin, ça sert à quoi d'aller chercher une carte pour ne pas jouer derrière?
Après, on sait jamais. Hein. Chaque fois, les joueurs disent que c'est le Joker, cette fameuse finale des cartes.
Oui, mais
six tours, on le rappelle. Hein,
non, mais le Joker, vous le jouez si vous avez joué pendant l'année. Ça sert à quoi d'aller récupérer sa carte pour ne pas jouer comme il a fait cette année? Donc, on s'en doutait un peu. Il était inscrit au livre, il s'est désinscrit. On s'en doutait, malheureusement, la nouvelle est tombée. Après, voilà, on a quand même vu quasiment,
pour l'instant, ouais.
Ouais, quasiment tous ceux qu'on arrêté jeunes, tous les sportifs, les Borg et les Jordan et tous les autres, Michael, tout le monde a repris. Donc, bon, on espère que ça n'est que provisoire. Après, pour l'instant, en tout cas, il l'a déclaré.
Après, avec Victor, tout est possible. On l'a vu, nous, quand il a éclos comme ça au plus haut niveau, c'était vraiment hyper surprenant. C'était brutal dans le bon sens.
On s'attendait pas à voir un jeune comme ça être aussi performant si jeune.
Bah, 2010, il passe pro. 2014, il est en Ryder Cup.
Ouais, 4 ans seulement pour accéder au Graal.
C'est fulgurant. Et donc, finalement, il a connu le très, très, très haut niveau, le Graal, comme tu le dis, JP.
15e mondial. Hein.
15e mondial, qui est le meilleur classement à ce jour qu'un Français n'a jamais obtenu, à l'exception de Céline Boutier chez les femmes. Mais moi, je trouve que c'est arrivé très vite. Parce que ce garçon a un talent incroyable. Maintenant,
après 33 ans, c'est quand même
c'est jeune, mais moi je me demande si Victor, fondamentalement, il en a pas marre d'être dans un niveau qui n'est pas le sien, si je puis dire, et si c'est pas insupportable à vivre, et si c'est pas tout simplement la raison de son arrêt, parce que d'autres pourraient dire
le fait d'avoir à toucher le haut niveau et de plus être à ce haut niveau-là.
Parce que là, il y a quand même un gros gap. Je veux dire, entre ce qu'il a connu et ce qu'il connaît aujourd'hui, il y a quand même une grosse différence. Et je sais pas si par le passé d'autres joueurs français ont connu ça. D'autres joueurs, oui. Mais d'autres joueurs français, je ne sais pas. Et donc, moi, je crois qu'avec le tempérament qu'il a, et c'est quand même quelqu'un d'hors norme, c'est quand même quelqu'un d'à part. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Et tant mieux pour lui, c'est ce qui lui a permis d'avoir des résultats exceptionnels. Je crois que pour lui, c'est juste insupportable de devoir repasser par tout ça et de, sans avoir la certitude d'y arriver, je crois que c'est insupportable. Et quelque part, il doit considérer qu'il ne mérite pas ça, quoi.
Et puis, Arnaud, les mots sont forts. Il dit clairement, je tourne la page, quoi. C'est un peu dans le sens... Bah, le golf, c'est terminé, mais...
Oui, mais on l'avait eu il y a longtemps, hein, parce que malheureusement, les rapports avec la presse n'étaient pas faciles avec Victor, mais il l'avait dit, hein, dans quasiment la dernière interview qu'il nous avait accordée, il dit, mais vous attendez pas à me voir jouer très longtemps.
Il ne parlait pas d'une carrière linéaire. Quoi.
Voilà, et puis il disait, bah, il y aura des moments où j'arrêterai, où le golf, ce n'est pas tout dans ma vie. Voilà, malheureusement, encore une fois, on le sentait venir. Moi, j'avais vu Benoît Ducoulombier, on le verra tout à l'heure dans l'émission. Je l'avais vu en début d'année, je crois que c'était championnat de France à Bordeaux. Et déjà, Benoît, il
sentait
là,
quelque chose.
Là, il disait, j'espère que ça va pas s'arrêter comme ça, quoi. Voilà, et parce qu'il disait, bah, je le vois pas, ou je l'ai très peu vu. Et voilà, et ça beau être Victor, et ça beau être le plus grand talent probablement qu'on ait jamais connu, en tout cas dans le golf masculin en France. Bah, il y a un moment où les autres vous rattrapent, voire vous dépassent. Et
le niveau augmente surtout.
Voilà, le niveau augmente. Et donc, peut-être que Victor et même Benoît le sentaient que le niveau progressivement et que le golf s'échappait et que son niveau s'éloignait de lui. Quoi. Enfin, qu'il n'arrivait plus à avoir le même niveau.
Ouais, Eric.
Après, est-ce que c'est une fin de carrière définitive? Comme tu le disais, il y en a d'autres qui sont revenus. On ne peut pas savoir. À 33 ans, c'est difficile. Lui, il le dit aujourd'hui parce qu'il le pense.
Le terme « je tourne la page », c'est quand même, on sent que c'est quand même réfléchi. réfléchi, quoi. C'est pas juste sur un coup de tête, quoi.
Oui, oui, mais après, bon, Victor, il est capable de coups d'éclat et on n'est pas à l'abri d'un revirement de situation, ce que nous, on aimerait au fond de nous, en réalité. Donc, l'avenir nous dira justement si c'était définitif ou pas.
Allez, messieurs, je vous propose tout de suite de joindre Fabien Pigalle. C'est l'homme qui a vu l'homme qui a justement fait cette annonce d'arrêt de carrière. On l'écoute, Damien. Fabien.
Alors Fabien, il y a quelques minutes à peine, vous avez eu l'entretien du jour, du mois, même de l'année, probablement dans le golf français, et même au-delà dans le sport français, vous avez vu Victor Dubuisson qui vous a annoncé mettre un terme à sa carrière, c'est ça ?
Ouais, tout à fait, il nous avait donné rendez-vous au golf All Course à Cadman-de-Lieu, j'y étais il y a quelques heures, et il a choisi de s'exprimer sur l'arrêt de sa carrière, qu'on pouvait peut-être un peu pressentir, puisqu'il y a quelques jours, on apprenait son retrait aussi du livre. Mais voilà, donc il nous a donné rendez-vous, il a choisi l'équipe, et on s'est longuement posé. C'est un entretien qui a duré 1h30, où il revient sur ses 13 années, passées sur le tour.
Vous l'avez trouvé comment, Victor ? Serein, un peu tendu, un peu…
Un peu… Alors, pas tendu, serein, soulagé, conscient aussi de la page qu'il tourne en annonçant du coup son l'arrêt de sa carrière, puisque c'est… Et il le dit, le tour a rythmé sa vie depuis 13 ans. Donc il est conscient de ça, mais Victor, c'est quelqu'un qui aussi sait à quel point les à côté de la vie, enfin que la vie ne s'arrête pas non plus et ne tourne pas que autour du golf, et donc il a d'autres projets en perspective également, quoi.
On a eu la chance d'avoir votre interview en avant-première, Fabien, et on l'a trouvé particulièrement lucide et même un peu… C'est même pour la première fois un peu, je ne sais pas si c'est auto-flagellé, mais en tout cas, il a reconnu des erreurs et un regret.
Oui, il a reconnu, quelques erreurs. Erreur, c'est un grand mot. En parlant de regret, il en exprime un précisément de manière sur le plan sportif, c'est celui de ne pas s'être installé aux États-Unis et de pas avoir déménagé là-bas. Pour vivre pleinement, on va dire, sa carte qu'il avait eue sur le PGA Tour. Mais il explique aussi pour des raisons personnelles. Et c'est ça qui est assez admirable, je trouve, dans cette interview. C'est que finalement, on arrive à comprendre un peu mieux. Il nous fait comprendre aussi pourquoi, certaines fois, tout n'a pas été facile et évident. Un peu le backstage du sportif qui… quelque part peut-être aussi le faire qu'une fois que cette page est tournée, donc voilà, oui, c'est ce qui, enfin, je sais pas comment vous aussi vous l'avez ressenti, mais je pense que c'est un peu un avis qui est partagé.
Ouais, mais on le sent, ouais, je pour ça que je vous ai demandé comment vous l'aviez trouvé. On le sent limite détendu et apaisé d'avoir il a vécu recroquevillé, il dit recroquevillé pendant 15 ans sur le tour, c'est fort comme mot quand même, quoi.
Ouais, c'est fort. Après, c'est vrai que voilà, la vie sur le tour. Alors, il a dit aussi, il a eu une chance quand même de vivre ça. Il s'est donné les moyens de vivre ça, mais ça demande une exigence et une capacité humaine. Enfin, c'est une épreuve aussi, la vie en dehors du tour. Nous, ce qu'on voit, ce que les téléspectateurs voient, c'est ce qu'on retransmet à la télé, c'est-à-dire du golf pur et dur. Nous, on a la chance de les suivre d'un peu plus près aussi. Mais il y a tous ces à côté, effectivement, qui pèsent, ces voyages à droite à gauche, ces rythmes. Il a aussi, peut-être on le lira dans une deuxième partie de l'interview un peu plus tard dans le journal du golf, mais il parle du cut, le principe du cut et le poids que représente un cut dans la carrière d'un joueur. Et ça, c'était aussi… extrêmement intéressant. Il militait d'avoir sur le tour 4 jours sans cut, parce que c'est vrai que finalement ce couperet met énormément de pression dans la performance à tout le monde.
Il revient aussi sur ses débuts où il dit qu'il n'a jamais eu autant de pression que ça parce qu'il vivait dans une chambre de bonne avec sa sœur et sa mère et qu'il lui fallait à tout prix réussir à ce moment-là, qu'il ne pouvait même pas faire une carrière amateur aux États-Unis. Il devait passer professionnel et subvenir aux besoins de sa famille. C'est fort aussi ce passage de l'interview.
Oui, tout à fait. Il a clairement exprimé qu'à un moment, il fallait qu'il joue pour l'argent, mais pas pour le plaisir d'en avoir, mais c'était surtout d'une responsabilité familiale à assumer. Donc, il le dit clairement, même assez fort, puisqu'il explique que c'était pratiquement plus de pression que pour une Ryder Cup, ce passage pro.
Pour terminer, il prévoit une reconversion dans le coaching, mais pas dans le coaching de haut niveau, c'est justement là aussi où il redit ouais. le niveau et la vie sur le circuit ne l'intéresse pas.
Ouais, tout à fait. Il a pas connu de rapport humain. Enfin, c'est pas aussi brutal que ça, mais il a passé beaucoup de temps isolé sur ses années sur le tour et ce qu'il a envie de vivre maintenant, c'est de partager des choses simples autour du golf. Je sais que Benoît Ducoulombier, son coach, lui a reconnu un œil assez aiguisé pour savoir en peu de mots et en quelques conseils ce qui va pas chez un tel joueur. Mais au-delà de ces conseils-là, c'est surtout de pouvoir avoir en face de lui des gens qui sont contents de passer un moment avec un champion comme lui. Quoi.
Il va avoir un carnet d'adresses et un carnet de leçons rempli, parce que prendre une leçon avec Victor Dubuisson, j'imagine ouais. que du côté de Tian, ça va être un must absolu.
Ouais, alors je sais pas si c'est à Cannes ou ailleurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le public qui peut attirer, ça va pas être uniquement un public de golfeurs aussi. Enfin, un public de golfeurs, pardon. Oui, forcément un public de golfeurs, mais qui sera pas obsédé par le conseil technique. Puisque, comme vous le dites si bien, je pense que c'est surtout une expérience de vie et des échanges avec lui qui vont être assez, assez riches à vivre. Quoi. C'est inestimable de pouvoir passer du temps avec lui, pas forcément à taper une balle. Hein.
Fabien, pour terminer, dernière question de l'interview, il remercie... les gens qu'il a croisés, quelques personnes qu'il a croisées, et, ouais, et notamment Pascal Grisot, où il confesse. Je pense que Pascal Grisot va être content de voir ça, et en plus, il dit ouais, qu'il a vraiment été pénible. Là aussi, c'est ce que je disais, quand il reconnaissait des erreurs, c'était ça aussi. Il reconnaît que voilà, qu'il n'a pas été facile pour Pascal Grisot, et que
ouais,
à la place
tout à fait.
De Pascal Grisot, il aurait envoyé balader, on va dire.
Ouais. Et puis, il le reconnaît d'une manière... qui en fait veut dire beaucoup de choses parce qu'il le reconnaît un peu de manière humoristique avec ses mots en disant voilà, c'était 100% de ma faute et j'étais une tête de lard, hein, comme il le dit. Et quelque part, ça, c'est ça un peu Victor Dubuisson, c'est que c'est aussi que du golf, quoi. C'est les défauts qu'il a pu avoir ou les choses qu'on peut lui reprocher, ben voilà, c'est à la hauteur de petites choses, puisqu'on parle que de golf, que de sport et que de loisirs, quoi.
Merci Fabien Pigalle, en tout cas, pour cette interview passionnante, et merci de nous avoir fait confiance. Et puis c'est pas ce n'est que qu'une continuité.
Bien
et
sûr.
On n'a pas fini de vous revoir et d'avoir à nouveau Victor, on l'espère. Merci Fabien.
Merci beaucoup Arnaud, au revoir.
Voilà, messieurs, on reste un peu comme sans voix hein, de cet arrêt brutal de Victor Dubuisson. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de sa carrière ? Il y a plein de choses. Il y a des coups d'éclat, il y a cette 15e place mondiale, cette année 2014 flamboyante.
Ce qu'on va retenir, c'est que c'est aussi pour ça qu'on fait une émission spéciale, c'est que c'est le plus grand joueur français qu'on ait vu pour l'instant de notre vivant chez les hommes. Il a fait des résultats que personne d'autre n'a fait. Il nous a fait rêver comme personne d'autre.
En tout cas, j'ai envie de dire, c'est l'un qui nous a procuré le plus d'émotions.
Ah bah, et de toute façon, il y avait encore quand la Fédé a annoncé qu'il ne jouait pas les qualifs du livre, il y a encore un internaute qui a dit, mais est-ce que vous avez des nouvelles pour 2024? Et c'est vrai que partout dans tous les clubhouse de France, c'était est-ce que vous avez, et notamment à nous les journalistes, est-ce que vous avez des nouvelles de Victor? Voilà, c'est le joueur qui a fait le plus rêver les gens, parce que parce qu'il était flamboyant et parce qu'il jouait super bien au golf, mais en plus avec, avec une aura et que, un charisme que, qui ne s'invente pas, qui ne se décrète pas chez un champion ou chez un être humain.
Et au-delà du charisme, il y avait chez Victor une forme de Victor, une forme de confiance. En tout cas, nous, on le percevait comme ça. On ne sait pas, nous, comment il le vivait de l'intérieur, mais on avait cette impression qu'il était capable de battre n'importe qui à n'importe quel moment.
De débrancher un peu le cerveau à tout moment pour faire des coups sous pression.
Et moi, en ce qui me concerne, il y a deux moments que je retiendrai plus particulièrement. Il y a évidemment le championnat du monde de match play, où il a eu, d'où son surnom de Cactus Boy, parce qu'il a fait des coups extraordinaires. Mais Cactus Kid, pardon. Mais toute la semaine a été extraordinaire. Et franchement, qu'il ne gagne pas en finale contre Jason Day, qui était stupéfait des coups que Victor pouvait sortir, c'est juste un peu dommage, parce qu'on aurait tous aimé qu'il triomphe. Et puis, à la Turquie,
où son doublé en Turquie,
voilà, où il finit par, je pense à la deuxième,
en 2015,
où il s'impose et on voit toute l'émotion effectivement à ce moment-là
avec Benoît Ducoulombier d'ailleurs,
avec Benoît, il s'étreigne dans les bras, etc. Parce que on voit à quel point c'est difficile, parce que Victor pour nous c'était un monstre de talent, de performance et tout, et il craque parce que c'est dur le golf. Et pour moi c'est ces deux moments-là qui sont les plus marquants. Après moi j'ai eu la chance de le voir au Masters en 2014. Je m'étais posté au trou numéro 18 et je trouvais qu'il avait une facilité à se placer, à jouer, à enchaîner. Je trouvais ça un peu surprenant. D'ailleurs, Romain Langas m'avait fait un peu la même impression. Alors encore une fois, c'est de l'extérieur. Nous, on ne sait pas ce qu'ils vivent à l'intérieur. Mais je trouvais que Victor avait une facilité assez déconcertante et ça l'a amené là où on sait quoi. Et
la Ryder aussi, il faut pas oublier la Ryder quand même.
Qui est finalement la Ryder qui est la conclusion de cette année 2014. On le rappelle avec ce WGC de match play, ces deux top 10 en majeur au British et à l'USPGA.
En arrivant bien souvent le mercredi.
À la Victor, on va dire.
Le mercredi.
Et puis voilà, l'apothéose de cette Ryder Cup où il a joué fabuleux à Graham McDowell.
Voilà, il termine invaincu, il gagne tout même, si je me souviens bien. Et vous le disiez, Eric, 4 ans avant, il était encore amateur et là, il arrive à la Ryder Cup. Et les champions, c'est ça, c'est un peu pareil. J'aime bien les analogies avec les autres sports. Quand vous arrivez en équipe de France de foot, on voit bien la différence entre le niveau régulier du championnat et puis l'équipe de France de foot. Là, c'est pareil. La Ryder Cup, on en a parlé, on n'y reviendra pas aujourd'hui sur Auberg. Mais voilà, la Ryder Cup, c'est le niveau au-dessus. Et Victor, il est arrivé. Mais il était fait pour ça, quoi. Il était fait pour regarder.
Il le disait, mais il était à sa place. Monde,
les yeux dans les yeux. Il avait peur de personne. Il avait fait une Ryder Cup exceptionnelle.
Je rebondis sur ce que dit Arnaud. C'est vrai qu'en général, il y a un temps d'acclimatation. On n'arrive pas du très haut niveau amateur au meilleur niveau professionnel parce que c'est un sport très difficile. Et lui, son apprentissage, il a été ultra accéléré. Ultra accéléré. Et moi, ça m'a très, très impressionné.
Parce que sa méthode aussi, il expliquait de peut-être pas aller au practice, de passer des heures, plutôt aller sur le parcours. On savait sa méthode d'entraînement, il jouait à chaque fois deux balles et il jouait la plus mauvaise des deux balles.
Ça, c'est dur. Hein.
Et c'est ça aussi qu'il a
fait. Oui, je me souviens d'une interview. Je crois que la Fédération française de golf l'avait fait intervenir. Et quand les coachs classiques, traditionnels, j'allais dire, reconseillaient sur tel dogleg de jouer le tir gauche dur, fairway, etc., lui, Victor, il conseillait jamais ces lignes-là. Et à un moment donné, ils se sont rassemblés, ils lui ont dit: mais attends, Victor, tu rigoles sur ce trou-là, il vaudrait plutôt mieux jouer là et là. Il a dit: mais attendez, si tout le monde joue au même endroit, tout le monde va faire les mêmes scores. C'est pas ça le jeu. Donc, ça, c'est ce qu'on m'a rapporté, mais ça me semble être assez pertinent par rapport à ce qu'on sa personnalité, de ce qu'on a vu de Victor, qui est en plus un joueur surpuissant et qui pouvait se permettre lui aussi de choisir des lignes que d'autres ne choisissaient pas, mais ça montre le décalage avec sa vision du jeu de golf et une vision plus classique du jeu de golf.
Alors justement, Arnaud, c'est vrai que Victor Dubuisson, il nous a tous fascinés, il nous fascine tous, et même ses pairs, hein, notamment Grégory Avray, on lui avait posé la question dans une interview: quel était le joueur le plus talentueux avec qui il a joué. Il avait joué, je vous laisse deviner sa réponse, on l'écoute, Greg.
Victor, franchement, il n'y a pas beaucoup de mecs où je m'arrête au practice et je regarde. Il y a Tiger, il y a Rory et il y a Victor. J'adore. Quand Victor est là au practice, je me mets derrière, je regarde. J'adore comme il apprend, j'adore comme il joue, j'adore ses routines, comment il la chope. Moi, je ne la chope pas comme ça, moi, je suis pas mal le divo. Lui, il apprend très clean.
Il a ce côté artiste aussi, lui.
Ah ouais. Bien sûr, c'est un artiste à part entière, hein. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Un mec que j'apprécie beaucoup aussi d'ailleurs. Parfois incompris, il est comme il est, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que avec lui, c'est pas entre les deux quoi. Moi j'aime beaucoup et j'aime énormément jouer avec lui et je me régale. Quand je le regarde, je me régale. Donc ouais, peut-être Victor Dubuisson.
Voilà Arnaud, impressionnant quand même de voir Grégory Havret mettre Victor Woods. Dubuisson au même niveau que Woods, McIlroy.
Mais c'est vrai qu'il était fascinant. Et moi je me souviens, c'est aussi Greg Havret, je ne sais plus dans quelle interview, où il disait que Victor avait une façon de ressentir un coup, de regarder un coup, de jouer un coup qu'il n'avait jamais vu chez personne d'autre. Je crois bien que c'était Greg Havret et que c'était extrêmement fatigant. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il arrête aussitôt. C'est peut-être qu'effectivement...
Ça prenait beaucoup d'énergie, la façon dont il jouait.
C'est vrai qu'il y mettait. Et bah, de toute façon, encore une fois, vu l'ascension fulgurante et vu ce qu'on dit sur lui, où il tapait moins de balles, mais le peu de balles qu'il tapait... Visiblement, un peu comme à l'image d'un Nadal, même si lui, il s'est beaucoup plus entraîné, mais qui joue chaque coup à 100%, Dubuisson, apparemment, c'était ça. C'était l'engagement et la vision d'un coup. Pour revenir encore là-dessus, j'avais une photo de Bobby Jones dans le grand joueur américain des années 30. On voyait son regard, qui regardait le drapeau. Ben voilà, Victor, c'était ça. C'était une concentration, un pouvoir de saisir le coup qu'il avait à jouer que, bah, encore une fois, on n'a jamais vu en France pour l'instant.
C'est ça, Eric, Victor, c'est toujours la créativité, l'instinct, un peu loin de certains carcans de travail, aux practices, taper des balles pendant des heures. Victor, lui, il aime aller créer, aller jouer, c'est ça quand...
Oui, il y a des modes différents d'entraînement et chacun doit choisir le mode.
C'est ça, c'est vrai qu'on lui a reproché beaucoup. On lui disait, oui, Victor, il travaille pas, Victor, il fait pas ci, il fait pas ça.
Mais dès qu'un joueur ne performe pas alors qu'il a du talent, c'était pareil pour Olivier Edmond, c'était pareil, je pense à lui, mais je pense Michael Lorenzo Vera qui a du talent, etc.
Ceux qui sortent un peu des
tous,
cadres,
tous
finalement.
Ceux, globalement, alors j'en oublie, hein, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux que j'ai pas cités, mais je pense à eux parce que je les connais et que ça me vient comme ça à l'esprit. Mais dès que les gens ont du talent et qu'ils ne performent pas, on explique qu'ils n'ont pas assez travaillé. Mais c'est pas vrai, c'est qu'ils travaillent différemment. Ils travaillent.
Ça, c'est peut-être. Est-ce que c'est très français ce genre de réflexion? Ou très, on va dire.
Dans notre pays, ça a été un peu compliqué pour avoir vécu la fin des années 80, les années 90, où on n'avait pas de résultats et on expliquait que c'était la faute des profs parce qu'ils n'étaient pas bons ou des joueurs parce qu'ils s'entraînaient pas assez. Oui, en France, on nous a pas fait de cadeaux, mais parce qu'on est un jeune pays. Donc ça, c'est un autre sujet, ça sera une autre émission. Moi, j'ai plein de réponses à vous donner par rapport à ça, mais pour rebondir sur votre, pour répondre à votre question, oui, c'est vrai qu'en France, quand quelqu'un a pas de résultats, on dit il travaille pas. Je crois que c'est pas toujours lié à ça. La haute performance, c'est une pyramide. Les autres pays travaillent aussi, ils ont aussi des talents, il y a aussi des modes de travail différents selon les uns les autres, et c'est là parce que nous on n'a pas encore les résultats escomptés qu'on fait pas le job quoi.
Et Jean-Philippe, je sais pas si à quel moment vous allez le montrer, mais on a cherché des archives de Victor et on a une interview de lui.
Ça vient.
Voilà, et il explique très bien que voilà, en tout cas, il a eu des résultats et il dit maintenant je fais fermer leur bouche, on va dire, à tous ceux qui me dénigraient parce que il dit on parlait des autres, mais les autres à l'époque, il est 23e mondial, je crois. Il dit moi je suis 23e mondial, les autres ils sont où? En tout cas, ils sont derrière.
Alors justement, Arnaud, cette interview, c'était juste après son WGC match play et évidemment, il va revenir sur ces deux coups magiques, ces deux coups mythiques, ces fameux chips depuis les cactus, comment il les a joués. Il nous explique tout ça, Victor.
J'étais très très mal placé, j'avais une chance sur mille hein, de réussir le coup, mais je savais qu'il y avait une possibilité. Il fallait que je la joue forte dans la bosse de rough, et même si il fallait juste qu'elle ne soit pas courte. Il fallait juste que je la joue à fond parce que si je dépassais le trou, elle redescendait au drapeau avec la pente. Certes, j'avais un coup impossible, mais c'est des coups qu'il faut jouer à fond, il ne faut pas se poser de questions dans ce genre de situation. Il ne faut pas commencer à essayer de dire je vais la toucher comme ça, je vais la prendre là, il faut que je la monte comme ça. Non, c'est des coups qu'il faut jouer à fond, il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas se retenir. Ah oui, le cap, je n'ai même pas cherché à le bouger, mais parce que je savais qu'il fallait qu'il y ait tout qui se goupille bien pour que je réussisse ce coup. Donc j'ai joué vite parce qu'il ne fallait pas que je réfléchisse. Ben là, c'était la même chose. C'était pareil, je savais que j'avais une chance de mettre sur le green et de sauver le par, mais j'ai joué vite parce que c'est des coups, faut pas se poser de questions, parce que de toute façon, il n'y a pas de coups, donc on s'entraîne jamais à des coups comme ça. Donc il faut la jouer à 100% et il faut pas se retenir quoi. Donc il faut jouer vite. Il était un peu choqué quoi, du coup, parce que quand il est venu voir ma balle au 1, il était sûr de gagner, et quand il est venu au 9, il était sûr de gagner aussi en la voyant. Donc comme moi, j'aurais été sûr de gagner le match s'il avait été dans cette situation. On ne serait pas posé de questions. Hein. On ne serait pas dit ah peut-être que non. On serait dit c'est bon, c'est plié, je suis champion du monde. J'ai joué pas très bien, mais j'ai essayé de le repousser. J'ai repoussé dans ses plus, je sais pas comment on dit, dans tous ses retranchements. Enfin, je lui ai donné extrêmement de mal à gagner le match. Quoi.
Voilà, messieurs, passionnant de l'écouter, Victor Dubuisson. C'est vrai que malheureusement, je crois d'ailleurs que c'est la dernière interview qu'on a fait de Victor Dubuisson. C'était en 2014, juste après cette deuxième place au championnat du monde de match-play. Ses coups dans les cactus, c'est devenu mythique. C'est ça qui a fait sa légende aussi.
Non, mais c'est du pur génie. Mais au-delà, je trouve, du fait qu'il sait comment le faire, il le conçoit, il l'imagine, il le visualise, etc., il le fait. Et c'est ça qui est très difficile, parce que nous, évidemment...
Finale d'un WGC match play.
Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il le fait au moment qui compte. Et la vraie différence entre un champion hors norme et un excellent joueur, c'est la capacité de produire le bon coup au bon moment, on le sait tous. Mais malheureusement, enfin, en ce qui me concerne, j'arrive rarement à sortir le bon coup au bon moment, et c'est pas le cas de ce grand champion.
Ouais, justement, peut-être que cette victoire saurait changer quelque chose, vous pensez, dans sa carrière, ou pas plus que ça?
Non, de toute façon, il le dit, lui, ce qui comptait pour lui, c'était le classement mondial, il serait peut-être monté un peu plus haut, mais non, je vois pas ce que ça aurait pu changer. Enfin, il avait les exemptions qu'il fallait, ça aurait pas changé grand-chose. Honnêtement, enfin, Victor, il était quand même unique et il traçait sa route à sa façon. Donc,
est-ce qu'il prenait pas une carte du PGA Tour à temps complet? Est-ce que ça lui ouvrait pas plus de portes?
Il a joué sur le PGA Tour, c'est pareil, il l'a joué et il a pas joué.
Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait les 50 meilleurs joueurs du monde aux Players, enfin les 49. Il en manquait un, Victor Dubuisson.
Bah, je m'en souvenais plus.
Voilà. Bah, donc c'est ça, Victor, il avait sa carte, mais le Players, il n'a pas été le jouer. Donc je pense pas que moi. Enfin, encore une fois, il a tracé sa route à sa façon, et il n'y a pas eu d'aléa autre que Victor. Enfin, le principal aléa de Victor Dubuisson, c'est lui-même. Enfin, c'était sa force, c'était sa faiblesse aussi. Il a tracé sa route à sa façon. Ça lui a réussi pendant quelques années, et puis après, je sais pas si on peut dire qu'il s'est perdu, mais en tout cas, il s'est étiolé jusqu'à cette
année. Après, il avait peut-être aussi une conception une philosophie de la vie un peu différente.
Bien sûr, mais il disait
pas 100% dédié au golf, avec d'autres centres d'intérêt. Exactement. Et donc, ça a pu peut-être un peu jouer sur ses résultats et ses performances, mais peut-être que ça l'a rendu heureux dans la vie. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite.
Il disait toujours qu'il n'avait pas que le golf dans la vie, d'ailleurs, Victor, et qu'il n'aurait pas cette carrière linéaire, que des fois on le verrait disparaître. Alors peut-être que là, on le voit disparaître pendant quelques temps, qu'il va revenir, qu'il va retrouver cette envie de jouer. Est-ce que vous vous souvenez de cet Open de France 2015 aussi, où il avait convié uniquement des enfants, conférence de presse,
C'était
24 enfants, c'était...
C'était le plus gros moment de tension entre lui et la presse, pas qu'avec nous d'ailleurs, parce que après ça a gagné un peu tout le monde, et même un peu la presse étrangère, et voilà, il avait choisi plus de journalistes que des enfants en face de lui.
C'est ça aussi qui a fait un peu aussi sa légende à Victor, mais c'est ce relationnel compliqué avec les médias,
avec tout le monde, avec ses agents, avec la Fédé, avec tout le monde. Victor, c'était même avec les autres joueurs, il était quand même particulier, il était dans son monde, on savait jamais s'il allait être là ou pas être là pour aller signer ses contrats, il a tracé sa route.
Peut-être que...
en se moquant de tout le monde, il y avait cette histoire avec Thomas Björn qui apparemment l'avait pris entre quatre yeux en lui disant écoute, nous on a fait tous les programmes depuis des années, maintenant c'est ton tour. Et puis Victor, enfin moi j'avais eu une engueulade avec Pascal Grisot qui n'était pas président de la Fédé à l'époque. Et il était capable de regarder les gens dans les yeux et franchement, mais vas-y, continue ton discours. De toute façon, je n'en ai rien à faire. Je ferai à ma façon.
Peut-être que Victor, mais c'est pas pour l'excuser, mais c'est pour essayer d'expliquer. Peut-être que c'est un homme libre et que peut-être toutes les contraintes autour du monde professionnel finalement ne l'intéressent pas. Donc je comprends les complexités que ça amène et avec les agents, les équipementiers, la presse, etc. Je comprends évidemment puisque on connaît ce microcosme. Mais si on considère qu'il est un homme libre quelque part touché par la grâce parce que pétri de talent, peut-être que toutes ces contraintes, il en a pas envie, il veut juste jouer au golf, quoi. Enfin, je schématise, hein, mais
moi j'ai surtout surtout le sentiment qu'il a pas voulu aussi prendre ce côté porte-drapeau du golf français, le fameux joueur qu'on attendait tous,
aucune étiquette, rien,
pour porter le golf français, quoi.
Golf français ou golf européen ou voilà, même à la Ryder. Je me souviens du capitaine qui avait dit Victor, c'est Victor, c'est Victor. Et je crois que même, même McDowell qui jouait avec lui avait dit Victor, c'est Victor. Quoi. Voilà, ça voulait tout dire. C'était que...
Ce côté un peu fascinant, c'est on le prend comme il est.
Oui,
finalement.
On le prend comme il est insaisissable et il n'est pas comme les autres.
Eric, justement, le côté pas comme les autres, évidemment, son swing de golf, il était aussi pas comme les autres ou finalement, il est plutôt...
Non, moi je trouve qu'il a un swing bien construit. Je dis pas ça parce que son premier entraîneur, Stéphane Damiano, c'est un ami, mais c'est vrai qu'il a un grip un peu fort, mais il est pas le seul. Il a vraiment une magnifique largeur de swing. Vous savez, c'est l'espèce d'extension, de distance entre les mains, le sternum. Bon, bref, il a une magnifique largeur de swing. Il a un excellent pivot. C'est un joueur assez centré, je trouve. Très très belle rotation, beaucoup de transmission d'énergie. Franchement, c'est un swing très costaud. Hein. Je pense pas qu'il soit très très souple, ce qui explique ces trois quarts de swing avortés. Il a pas un vrai finish à la Ballesteros comme on voyait à l'ancienne. Non, il est plutôt un peu à la Fleetwood, en train de contrôler un peu son club. Mais c'est un swing très très juste, très pur. Je trouve assez contrôlé et très 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 puissant, quoi. Et on le sait, il était extrêmement puissant. Tout à l'heure, on parlait de la Turquie. Je crois qu'il joue drive fer 8. Sur le par 5 du 18 au Montgomery.
Du parcours, parce que...
Ouais, c'est en Turquie, c'est le Montgomery. Et donc, c'est un par 5 un peu étroit. Et il joue drive fer 8 pour prendre le par 5 en 2. Donc, voilà.
Ce qui est énorme.
Et il la met, je crois qu'elle est sur le. Elle est un petit peu à droite, elle descend sur le plateau.
On y est, Eric.
Bon, voilà.
On y est, Eric.
Lumière qui tourne.
On y est. Elle est très puissant. Non, mais c'est ça qu'on aimait chez Victor. C'est l'attitude avant tout. Mais c'est aussi la puissance. On se disait, il a tout. Il a tout pour performer au plus haut niveau.
Et le petit jeu aussi.
Oh, le petit jeu, mais fabuleux.
Mais vous parlez du swing, là, c'est ce qu'a dit Greg Avray tout à l'heure. Il en parle. Vous voyez quand, et c'est là où Eric est pro. Greg Avray était un des meilleurs joueurs français. Et quand ces joueurs-là vous parlent du swing des gens encore meilleurs qu'eux, c'est toujours fascinant. De toute façon, on le sait, c'est pour ça qu'on aime le golf. C'est quand même le geste sportif probablement le plus dur de tous. Bah, quand il est maîtrisé à la perfection par un Victor Dubuisson, ouais, c'est fabuleux. Enfin, c'est une espèce de grâce qu'on n'arrivera jamais à reproduire, nous, évidemment.
Allez, Arnaud, je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Benoît Ducoulombier qu'on a réussi à joindre juste après l'annonce de la retraite de la fin de carrière plutôt de Victor Dubuisson.
Alors, Benoît, traditionnellement, on vous adore. Hein, vous êtes un de nos invités préférés dans ce podcast.
Bon, c'est gentil.
À chaque fois, vous dites, mais je vous préviens, j'ai pas de nouvelles de Victor. Voilà.
Oui.
Et là, c'est nous qui avons des nouvelles de Victor. Il vient d'annoncer à Fabien Pigalle, c'est vient de sortir sur l'équipe.fr, qu'il arrêtait sa carrière.
Ah, d'accord. Très bien.
Qu'est-ce que ça vous fait ?
Bon, ça me fait mal au cœur, c'est tout. Ça me fait mal au cœur, mais bon, je crois qu'il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux en voyageant, en fait. Le problème de fond, il était là. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Hein.
On vous avait vu au mois d'avril. Et vous le sentiez venir, vous aviez dit, j'espère qu'il ne va pas arrêter comme ça quand même. Ouais, vous le sentiez venir.
C'est officiel, il a décidé d'arrêter.
Ouais. Voilà. Ouais.
D'accord, ok. Bon, bah, c'est son choix. Hein. Non, mais on en a parlé un petit peu récemment et il me dit, ça me pèse trop, les voyages, ça me pèse trop. Voilà. Donc, je crois que voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, à partir du moment où on n'a plus envie de voyager. Moi, il m'a même dit, quand j'ai fait moins 4 à Cans-sur-Cire le premier jour, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer, quoi. Donc, j'ai eu le même problème hein, à un moment dans ma carrière. J'en avais assez de voyager, j'en avais assez de m'occuper de mon nombril, en fait. Hein. J'avais plus envie de donner aux autres que de s'occuper de moi. Voilà, donc je pense que c'est ce qui arrive.
Il a même dit à Fabien Pigalle, il a dit qu'il avait vécu recroquevillé sur lui-même pendant 15 ans.
Ah bon, peut-être. Je ne sais pas. il m'a confié des bons secrets, c'est bien. Voilà.
C'est vraiment le plus beau talent, le plus beau swing que vous avez... dont vous avez eu l'occasion de vous occuper, Victor, Benoît.
Le plus beau swing, non, mais la capacité de jouer les coups difficiles sous pression, oui. Voilà, et avec quelqu'un qui en plus n'avait pas un grand putting, qui avait un putting un peu décousu, mais il faisait pas ses scores là-dessus. Et donc c'était vraiment la personne qui avait le plus de capacité. À jouer le coup qu'il fallait au moment où il fallait, en fait. crois que c'est surtout ça. Après, le plus beau swing, non, il avait son système à lui. Hein. Il avait son système à lui et il le gérait bien, il se connaissait bien.
Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez vu, Victor? Vous l'avez vu swinguer, vous l'avez vu jouer?
Alors moi, j'avais vu déjà l'année où il a passé ses cartes européennes. Et je voyais qu'il maniait la balle. Hein. Il tapait des fer 9, je me rappelle, je passais derrière, il tapait des fer 9. Puis un coup, il faisait une balle avec un peu de draw, je voyais la face de club un peu fermée là-haut. Puis la balle d'après, il faisait une balle avec un petit peu de fade, il y avait la face de club qui était plus ouverte. Donc on sentait qu'il avait les mains en fait. Non, je crois que c'est surtout ça. Il avait des mains, comment dire, où il contrôlait énormément la phase de club. Et voilà, le swing en lui-même était. Alors quand il était au top, vraiment il swingait très 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 bien. Il swingait large, il avait un bon physique, mais il avait cette qualité de contrôler sa phase de club avec ses mains. Quoi. Il avait vraiment une perception assez pointue de ses mains en fait. Donc,
C'était un plaisir, un honneur de comment vous raconter d'entraîner Victor Dubuisson.
Oh, c'était très difficile, hein. C'était très difficile parce que si à un moment donné il faisait un mauvais coup, il dit mais c'est bon, je l'ai la balle suivante. Donc il n'y avait pas besoin de dire grand chose en fait. Hein. Il fallait juste être à ses côtés et lui donner des petits rudiments très simples dans l'alignement, des choses comme ça en fait. Hein. Et je crois que c'est quelqu'un qui ressent bien les choses et puis qui a une très très bonne compréhension de la technique. Donc voilà, bon après c'est un peu désolant qu'il arrête si jeune quoi. Mais bon, moi je le comprends, c'est un métier tellement difficile, c'est un métier où on est tout le temps en train de remettre sa tête sur le billot tous les jours. Et je peux comprendre qu'il a envie d'autre chose dans sa vie en fait.
Quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez, que vous garderez de Victor, en tout cas dans cette première partie, en espérant qu'il y en ait une autre, mais quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez
les British Open, où il fallait sortir des coups exceptionnels et il le faisait. Je me rappellerai toujours au premier trou du British Open où il avait une sortie de bunker très longue, c'est une sortie de bunker de 50 mètres là, qui sont très difficiles, et il a fait un coup magique. Évidemment la Turquie, hein. Mais surtout par exemple, c'était sur un tournoi en match play en Angleterre. Il y avait un par 5 avec des berlinoises devant le green, et je l'ai vu, il tapait fort hein, le drive à l'époque, hein, quand il tapait vraiment plus fort que les autres. Hein. Et là, il avait 215 pour le début du green. Et j'ai vu prendre son rescue et il jouait le green. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Et après, j'en ai parlé de ce coup-là. Il me dit, Benoît, j'avais de la marge. Mon rescue, il pitch à 218. Donc j'avais toute la marge qu'il fallait. Alors qu'il n'a pas hésité un coup, hein. Une seule fois, il l'a joué. Et puis surtout, la plus belle semaine que j'ai vue, je pensais pas qu'un être humain pouvait jouer aussi bien, c'était la Ryder Cup. Là, c'était une démonstration, en fait. Une démonstration à la Ryder Cup à Glen Eagle. Je me rappelle de Grégory Avray qui était comme journaliste, qui commentait, qui avait le micro à la main. À chaque coup, on était sidérés, en fait. Sidérés. Il jouait ses parties avec Matt Dowell, et on le regardait jouer, en fait. Voilà. Vent de gauche, vent de droite, vent de face, la balle en bas, enfin, c'était impressionnant. Et voilà, donc, après, il y a des coups qui vont me rester dans la mémoire, comme aux États-Unis, il avait joué le Pro-Am, ce Pro-Am qui se joue le TNT, c'est ça?
Ouais, Pebble Beach.
Pebble Beach, d'accord. Et bien, quand il a fait le dernier jour moins 5 dans la tempête, c'est un truc de fou. Moi, j'y étais, on avait les parapluies comme ça, les parapluies qui se retournaient et tout ça, et il a fait moins 5. Et le deuxième score derrière, le meilleur score des autres joueurs, ça a été 75. Et lui, il a fait moins 5. Donc, je me rappellerai aussi d'un coup, le jour de la qualification, donc je pense que c'était le troisième jour, un bunker de fairway, légèrement en descente dans le bunker de fairway, un green surélevé, le green avec un petit haricot sur la droite, vous voyez, un petit haricot sur la droite, et le drapeau, il y avait 2 mètres derrière le bunker et deux mètres derrière le drapeau. Et là, il m'a pris un coup de fer 4 dans le bunker, en légèrement descente, et il a mis une flèche dans le drapeau, pas un grain de sable à voler. Donc on a l'impression qu'il avait tapé un coup de fer 4, que sa face de club était en cristal, en fait. Tellement il y a eu un son incroyable qui est sorti de là. Et là-bas, il y a un coup de fusil qui est parti, qui a pitché à mettre devant le drapeau et qui a bloqué, et il s'est mis donné, en fait. Donc ce coup-là, il y avait un journaliste américain qui était à côté de moi et qui m'a dit, un coup comme ça, il me dit, ils sont 2 ou 3 dans le monde à pouvoir le faire. Donc c'était ça, en fait, l'histoire. C'était ça, la capacité à jouer les coups à fond, de ne pas se poser de questions. Alors, évidemment, quand ça passait pas, ça passait pas, mais quand ça passait, c'était de l'exceptionnel, en fait. De l'exceptionnel. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va perdre. Alors je ne dis pas qu'il avait le meilleur swing, hein. Simplement, il avait une perception de sa phase de club et un contrôle de sa phase de club assez exceptionnel.
On a les poils qui se dressent quand vous parlez, Benoît, là. Vous êtes ému, un peu ?
Oui, parce que j'ai passé vraiment des très, très, très bons moments avec lui. Des moments très compliqués, hein. Mais, bon, ça, c'est une autre chose. Des moments très compliqués, mais des moments de golf, là, on se dit, non. Là, on touche à autre chose, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est sûr que, bon, moi, je l'ai apporté. Moi, quand je l'ai connu, quand on a commencé à travailler, il était dans les 60 premiers de la race, il était 100e mondial. Et en quelques mois, il est devenu 15e ou 16e mondial. Donc, avec des petites choses, rien du tout, quoi. Juste la confiance, 2-3 façons de s'entraîner différentes. Et parce que le boulot avait été bien fait aussi avant. Hein. Je pense qu'avant, Roger Damiano, il avait fait un super boulot avec lui. Donc, il faut aussi rendre... Et puis, bon, c'est quelqu'un qui aimait... qui aime le jeu, hein, mais voilà, qui n'aime pas les voyages, c'est tout, hein, qui n'aime pas traîner à l'hôtel, qui n'aime pas les voyages, et puis qui m'a dit un jour, c'était au Doral, je m'en rappellerai toujours, on était au Doral, et il y avait Jordan Spieth, qui était, je pense, numéro 1 mondial à ce moment-là, et on le croise, et il me dit à ce moment-là, tu vois, la vie qu'il a, lui, moi j'en veux pas. Voilà, donc ça voulait dire que il n'aurait pas fait l'effort pour être numéro 1 mondial, mais il aurait pu. Franchement, il aurait pu être dans le top 10 mondial, top 20 mondial pendant des années. Mais seulement, il ne voulait pas de cette vie-là. Cette vie où il fallait répondre aux journalistes, etc. Vous avez bien vu comment ça s'est passé avec lui. Donc, il n'aimait pas ça. Voilà.
Dans son interview, effectivement, il remercie 3 personnes, hein, Roger Damiano, vous et Pascal Grisot. Il s'excuse un peu. Il a quand même un seul regret, c'est de pas avoir gardé sa carte du PGA Tour, pas être resté aux États-Unis complètement.
Ah oui, à un moment donné, il l'avait justement après ce truc-là et après ce programme, il avait la carte et puis il n'a pas été. Donc ça, je pense qu'il a un regret. Mais est-ce qu'il aurait tenu aux États-Unis loin de sa famille? Ah, je ne suis pas sûr. Donc il devait sentir ça, en fait. Voilà. Donc, il a fait l'effort pour arriver à un certain niveau. Ça, c'est sûr qu'il l'a fait l'effort. On n'arrive pas là comme ça par hasard. Mais après, il ne voulait pas aller au-delà, en fait. Donc, je pense qu'il ne voulait pas aller au-delà. Voilà. Tout simplement. Mais bon, moi, je le comprends très bien. Hein. Il n'y a pas de... Je ne vais pas lui reprocher, lui dire « Ah, mais pourquoi tu fais ça ?» etc. Hein. Je ne vais rien lui reprocher du tout. Je ne lui ai d'ailleurs jamais rien reproché. Et c'est comme ça. C'est tout. C'est un choix. Il faut autre chose. Hein.
Dans son interview à Fabien Pigalle là, sur l'équipe.fr, il dit aussi qu'il va faire coach et que vous disiez qu'il avait un très bon œil. En revanche, il ne veut encore une fois pas faire coach au niveau parce qu'il ne veut pas de la vie sur le tour. Ouais. Victor Dubuisson... coach ou pro de golf, ça vous parle?
Peut-être.
L'œil, vous lui avez dit qu'il avait un bon œil?
Ah oui, non, là-dessus, oui, il aime donner. En fait, je crois que Victor, il a simplement envie de donner et il s'aperçoit que si par exemple il fait une partie de golf avec des amis, il aime bien aider un joueur et puis voir que d'un seul coup il drive mieux et tout. Ça lui fait plaisir. Voilà. Et il n'a pas. Il ne se met pas en valeur quand il fait ça, vous voyez. Moi, je peux très bien comprendre, hein, parce que moi, quand j'étais joueur, à un moment donné, je me suis retrouvé dans un tournoi, et l'après-midi, j'avais fait mon entraînement, j'avais fini la partie, j'étais en tête du tournoi, et l'après-midi, j'étais là, je faisais un puzzle dans ma chambre d'hôtel, un puzzle de champ de lavande, enfin l'après-midi, je faisais ça. La journée était terminée. Et je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Et j'ai arrêté très rapidement derrière, en me disant, je ne peux pas passer ma vie à m'occuper de mon petit nombril, et je préfère donner aux autres. Et voilà, c'est tout. Donc, je peux très bien comprendre ça.
Pour terminer, Benoît, nous, en tant que journaliste, on a eu la chance de lui poser des questions. Bon, évidemment, il y a eu quelques moments où c'était pas facile, mais en tout cas, je l'ai toujours dit, il a parlé de golf comme personne en France. C'est le fait d'avoir été 15e mondial ou alors c'est parce qu'il parlait de golf comme ça qu'il est devenu 15e mondial? En tout cas, est-ce qu'il avait compris des choses que les autres n'ont pas compris, ou alors est-ce qu'il savait exprimer des choses que les autres ne savaient pas faire?
Je crois qu'il parlait comme ça, et c'est pour ça qu'il est devenu 15e mondial, et qu'il voyait les choses différemment, en fait. Je vous dis, il y a plein de coups où, moi, pourtant, j'ai bourlingué partout dans le monde avec plein de joueurs, hein, des super joueurs, Grégory Avray, etc. Bref, mais il voyait des coups que les autres ne voyaient pas, en fait, tout simplement. Vous voyez ? Et donc... Et puis surtout, la capacité, s'il voyait un coup très compliqué, de le jouer, le coup. D'accord ? C'était pas de la folie venant de sa part. S'il voyait un coup par-dessus, dans le trou, entre deux branches, là, machin, truc, eh bien, il y allait. Il dit, oui, mais c'est ce coup-là qu'il faut faire. Et il y allait, il le jouait, et il le faisait. Vous voyez ? C'est vraiment cette capacité, une fois qu'il a pris une décision... Parce que c'est lui qui prenait les décisions. C'était pas quelqu'un qui avait un cadet et qui, à chaque fois qu'il y avait un cadet qui prenait un peu du pouvoir sur lui, ça marchait pas. Mais il avait besoin que ça soit lui qui voit, lui qui décide, en fait. Et à partir du moment où il voyait et il décidait, il jouait le coup. Après, il s'est planté aussi, hein. Mais c'est aussi pour ça qu'il était capable de gagner des grosses choses. Donc, voilà. Cette capacité à voir et à faire et ne pas avoir de ne pas avoir peur de le jouer, le coup, en fait. Sûrement qu'il avait peur, mais il mettait tout un process en route où c'était c'est ce que je dis toujours, adviendra ce qui adviendra. À partir du moment où tu décides d'un coup, il n'y a rien de pire que de tirer une partie et en se disant, voilà, il y a trois coups que je n'ai pas décidé, mais Victor, tous les coups étaient décidés. Donc, il y a trois coups que j'ai pas joué, et puis il y a quatre coups que j'ai pas joué. Non, Victor, tous les coups étaient joués. Après, ça passe ou ça casse. Hein. Donc, je crois que. Voilà. C'est Victor, c'est ça. Hein. De l'exceptionnel. Et des moments compliqués où on l'attend, et on se demande si on va être à l'heure au départ. Voilà, c'est ça, hein. Hein, où dès là, 3 minutes avant le départ, on n'a toujours pas fait le chemin pour y aller. Et puis d'un seul coup, pouf, il monte sur le départ. Et puis en avant, c'est parti. Voilà. Donc, il y en a plein des anecdotes. Hein.
Merci Benoît, en tout cas c'est toujours aussi passionnant de vous avoir. Bon, de toute façon on refera une interview sur Victor Dubuisson et sur les anecdotes, et puis on reparlera d'Antoine Rosner, David Ravetto et tous vos autres joueurs. C'est toujours un plaisir, ouais. Et un bonheur et un honneur de vous avoir, Benoît.
C'est gentil, c'est très gentil. Allez.
Merci Benoît, à bientôt.
Ça a été un honneur d'entraîner Victor. Voilà. À bientôt, merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, messieurs, Benoît Ducolombier, le dernier coach hein, de Victor Dubuisson. Messieurs, bon, est-ce qu'il va revenir, Victor? Est-ce que c'est finalement... c'est pas
un pronostic, quoi.
Ouais, non, je sais non, pas si c'est un pronostic.
Avec Arnaud, on est rarement d'accord sur les pronostics.
En tout cas, on est d'accord, c'est quand même une grosse perte pour le golf français, pour le golf mondial, pour ne plus le voir sur les fairways, c'est dommage, quoi.
Ça fait partie, donc on l'a dit, le meilleur joueur français qu'on ait connu, pour l'instant. Quand même, il a été en Ryder Cup et il l'a gagné. Donc même en Europe, il a quand même laissé sa trace. Il est tout près de la carrière Monelis d'ailleurs, ça lui a peut-être joué des tours aussi, donc c'était un joueur européen. Et même au niveau mondial, ce qu'il a fait face à Jason Day,
il a marqué, final, il a marqué les esprits. Quoi.
C'est, encore une fois, il y a cette flamboyance, ce talent naturel, les coups qu'il a sortis. Voilà, des joueurs comme Victor Dubuisson, même à l'échelle mondiale, il n'y en a pas eu, Arnaud, autant que vrai, ça depuis 10 ans.
Il faut le signaler à chaque fois qu'on va sur des tournois en dehors d'Europe. Hein, on nous demande à chaque fois, alors, est-ce que vous avez des nouvelles de Victor? Qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qui fait ça? Et on nous demande pas souvent pour d'autres joueurs français, par exemple. C'est aussi un marqueur que ce joueur-là a marqué... Alors, une époque, quoi.
Moi, je vais me risquer parce que de la même manière que je pensais que Tiger allait revenir à la compétition, et il l'a fait, et je l'avais écrit dans Practice, qu'il était capable de gagner, il a gagné le Tour Championship. Et ensuite, j'avais dit, il peut gagner un majeur, il a gagné le Masters. De la même manière, moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri que Victor retrouve un plaisir...
Vous pensez qu'il a perdu le plaisir de jouer au golf cette année?
Je pense qu'il peut le retrouver sans s'y attendre. Peut-être que dans 3 ans, dans 5 ans, il va retrouver le plaisir. Et s'il retrouve le plaisir et l'envie, il peut revenir parce qu'il a 33 ans et qu'on peut jouer au golf jusqu'à très tard. Donc moi, je fais le pronostic et je croise les doigts pour que Victor rejoue.
Moi, je croise les doigts, mais comme tu le disais, Eric, on n'est pas souvent d'accord. Malheureusement, je crois qu'il j'y crois pas. J'aimerais bien qu'il revienne, mais après, c'est encore une fois, c'est du sport fiction. C'est compliqué à dire. Mais
il va se livrer à sa deuxième passion.
Oui, puis encore une fois, pour revenir, il faudra fournir encore plus d'efforts que ceux qu'il n'a pas fournis depuis quelques années, même si encore une fois, on disait qu'il était à part. Voilà, il va. Et puis c'est toujours pareil, hein, le niveau autour. Ça bosse plus que jamais, ça bosse
après,
mieux que jamais.
Il n'a pas été aussi épargné par les blessures, Victor, problème de dos.
Ouais. Enfin, j'ai envie de dire comme tout sportif de haut niveau et quasiment comme tout golfeur. Et justement, enfin voilà, moi, ça va être compliqué de revenir et je le vois pas revenir. Et il a, je sais pas s'il va apprécier, mais je pense pas qu'il ait fait tous les efforts qu'il fallait pour garder sa carte et pour continuer à être un golfeur de haut niveau. Je le vois pas aller faire encore plus d'efforts
vois,
pour redevenir un golfeur.
Si il t'entend, ça va lui donner une vraie motivation
de te
montrer que t'as tort.
J'espère.
Sur le livre, ça aurait été sympa de voir un Victor Dubuisson sur le livre.
De toute façon, c'est sympa de voir un Victor Dubuisson partout. Encore une fois, il nous a fait rêver comme aucun autre golfeur français. Donc évidemment qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'il revienne. Mais malheureusement, moi, j'y crois pas. Voilà, il veut tourner la page, il tourne la page. Encore une fois, il a tout à fait le droit. Nous, c'est sûr que nous de l'extérieur, on se dit mais mince, on en tient, il est bon, mais qu'il y aille.
Mais c'est ça.
Lui,
surtout, il nous fait rêver.
Mais il fait ce qu'il veut.
Il nous fait rêver sur les fairways, quoi. C'était incroyable, quoi.
Et autour des greens. Et sur les greens.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous propose de se quitter justement en images avec des images de Victor Dubuisson. On a retrouvé dans nos archives et dans les archives de la Fédération Française de Golf. Il nous avait fourni quelques images il y a quelques années. On va voir du Victor Dubuisson de 2007 jusqu'à la Ryder Cup, dans l'épaule avec Patrice Amadieu notamment. Et voilà, et on espère en tout cas le voir.
Des pépites,
exactement. On espère le voir très prochainement, peut-être ici même. Il est bienvenu sur les antennes de Journal du Golf TV, Victor Dubuisson. Merci messieurs. Merci à Axel à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !